on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bienvenue à l'émission On en jase, ton émission du midi sur les ondes du 102.1 Boulevard. 418-971-1021 d'ailleurs pour réagir avec nous par texto. C'est le 418-780-1021 si tu as le goût de nous appeler. BLVD.fm, c'est notre site web. C'est également notre web radio. Quand tu seras de retour au travail tantôt, parce que là, t'es sur la route pour l'heure du dîner, va sur le BLVD.fm et écoute-nous. Fais comme je faisais dans le temps que je travaillais au Patro Charlebourg ou au Patro Laval. J'écoutais ça via la web radio, moi. C'est ça que je faisais. Mais il y a l'application aussi. J'ai écouté Boulevard via l'application hier dans mon aller à Laval. J'ai écouté le Boulevard du Rock avec Colas.
À Laval?
Ouais, aller-retour à Laval. Mmh. On était dans les championnats provinciaux de hockey 4 contre 4. J'ai fait 6 heures de route pour un match de 45 minutes.
Ça, c'est de l'amour.
Ça, c'est de l'amour.
Gars, ça? Ah, ouais. Tes gars que tu coaches aussi.
Oui, exactement. Mais écoute, on a joué à la Place Belle, aréna de 10 000 sièges, le gros écran géant, les gars se voyaient là-dessus. C'était écœurant. On a mis fin à la saison parce que malheureusement, on a perdu également samedi. Donc, terminé la saison des Bucks de Charlebourg. Ma blonde est heureuse, elle retrouve son chum. Puis moi, ben, je vais être 2 semaines à m'ennuyer. C'est de même, j'ai déjà le faux mot. Je me dis déjà, Caroline Debine, en fin de semaine prochaine, je verrai pas mes boys de hockey que j'adore. Mais c'est comme ça. C'est une passion, que voulez-vous? C'est de cette façon-là. D'ailleurs, on va parler d'activité physique chez les jeunes tout à l'heure aux alentours de 13h25 avec Mathias Turcotte. Excellent dossier dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Cette semaine, Mathias a parlé avec Pierre Lavoie, parlé avec Gabriel Hardy. Deux crinqués d'activité physique, deux modèles pour nos jeunes. Pierre Lavoie, on le sait, notamment avec sa fondation. Alors, Gabriel Hardy, qui est député pour le Parti conservateur du Canada. Moi, ça m'a beaucoup parlé parce qu'on parle d'activité physique variée. On parle de loisirs récréatifs. Je trouve qu'on a perdu ces deux facettes-là dans la société au Québec. Puis résultat, ben, ça fait en sorte qu'on a 70% de nos jeunes qui ne sont pas dans la forme physique qu'ils devraient être.
Mais je lisais là, dans l'actualité qu'on voulait ramener les tests bip-bip en éducation physique. Moi, je suis pas sûr que ça va les motiver, par exemple.
Non,
c'est une affaire que tout le monde se faisait suer à faire. C'est le test bip-bip.
Exactement.
Mais ça donnait des données intéressantes.
Oui.
C'est pour ça qu'on veut le ramener.
Ça peut donner des données intéressantes, exactement. Mais la problématique, c'est que c'est pas ça qui va motiver Charles présentement. Puis là, je nomme un nom au hasard, qui est plus attiré par son écran que par aller jouer dehors.
Mais non, excuse-moi, là, dans un gymnase des deux côtés, je sais pas si vous en souvenez, là, tu te mets ça à la ligne, là, tu attends le bip. Puis quand tu entends le bip, il faut que tu traverses avant que l'autre bip se fasse entendre de l'autre côté. Mais ça augmente de plus en plus vite. Puis là, faut que tu lâches vraiment à la dernière minute, puis le dernier gagnant, mettons.
Moi, je l'entends encore dans mes cours.
Non, ben c'est ça. Exactement. Fait que le test bip-bip, là, au contraire, Charles, là, qui va arriver, là, il va dire « Je suis le plus poche. » Il voudra plus en faire d'activité physique.
Ça donne pas le goût. C'était humiliant.
Mais non, c'est ça. C'était comme une humiliation publique pour la moitié d'entre nous.
C'est le premier qui lâchait, là. Souvent, c'est la personne qui était moins en bonne forme physique. Super, tu sais, je veux dire, l'image, elle l'a encore en tête, là.
Mais en fait, c'est qu'il devrait avoir des objectifs un peu individualisés. C'est-à-dire, tu sais, mettons que tu es moins en forme, ben on va t'amener à t'améliorer puis à atteindre un meilleur niveau pour toi.
J'avais ça, moi, à partir de secondaire 3. Environ, là, ça avait changé. Mais là, clairement, c'est ça.
Mais c'est un bon point, parce que pourquoi on ne fait pas avec les jeunes ce qu'on fait avec les adultes?
Ben c'est ça, on se met des objectifs réalistes.
Pour les motiver.
Ouais. Ouais. Je veux dire, moi, j'étais en gym dans un cours de groupe, là, mais Jean Seb, là, qui est un spécialiste du canot, là. Tu sais, les canots par équipe qui font aux Jeux olympiques, là, lui, il est dans son équipe. Là. Fait que quand on fait un test de cardio, qu'on enchaîne 10 calories, vélo, rameur puis skieur, ben lui, il clenche ça 1 minute 15. Moi, je le fais en 2 minutes. Moi, mon record, c'est 2 minutes 18.
Non, puis j'entends déjà le monde dire « Spill nos jeunes, on les met trop dans Watt. » Puis là, c'était bon, ça, puis ça te poussait. Mais non, ça te pousse pas. À minute où t'es sorti du gymnase, puis que t'as fini ton test bip-bip, puis que t'as été humilié devant toute la classe, là,
ben
t'as tenté plus pantoute de faire du sport.
Ben non,
ça donne à rien.
Les filles parlaient, en tout cas, moi, dans mon année, là, dans mon vécu, ils se parlaient entre eux, puis entre elles, puis ils se disaient « Ah, au pire, on lâche tout en même temps. » Mettons,
ben,
quand une lâche. Fait que, tu sais, c'était pas mieux, là.
Mais non, c'est pas mieux. Faut donner le goût au monde. Faut donner le goût de faire du sport. T'sais.
C'est pas pour rien qu'il y a eu des programmes spécialisés, justement, pour les filles au secondaire, pour qu'ils continuent le sport. Donc, c'est pour ça, moi, je parle beaucoup de loisirs récréatifs. T'sais, moi, je suis capable de jouer à peu près à 30-40 sports différents. Puis moi, c'est avec le Patro. On allait là, on jouait. Il y en avait des bons, il y en avait des moins bons. Mais tout le monde jouait ensemble. Puis, tout le monde se respectait. Puis ça fait en sorte qu'Astor est capable de toucher à tout. Puis quand j'ai été animateur dans le patro, ben c'est simple. J'ai créé, tu sais, on avait les trois étoiles du match. Mais moi, j'ai créé le héros obscur du match avec mon ami Tommy.
Ah.
Ça, le héros obscur, c'est le petit gars qui a un peu de misère, mais que là, tu sais, on a trouvé des qualités. Mm. Et c'était devenu tellement populaire, le héros obscur, que les gens voulaient pas être première étoile, deuxième étoile, troisième étoile. Ils voulaient être le héros obscur.
C'est bon, c'est cute.
Puis là, les héros obscurs se sont mis à être repêchés dans les premiers quand on faisait des capitaines parce que c'était donc ben hot. J'ai lui qui va être le héros obscur dans mon équipe. Fait qu'on a tout débalancé la patente.
Mais ça, c'est un point. Être professeur là, d'éducation physique, puis je suis sûr qu'il y en a plein qui le font déjà, là, la chimie dans ton groupe.
Ben oui.
Ça, ça devrait être priorisé pour s'assurer que tout le monde ait envie de jouer. Parce que les fameuses équipes, c'est tout le temps les dernières choisies, là, les filles qui veulent pas bouger quoi que ce soit. Quand t'es grande, ça te sauve la vie. Là, parce que c'est un gars, une fille là, en alternance qu'il faut que tu choisisses pour ton équipe. Mais ça, la genre de chimie d'équipe, trouver quelque chose qui va intéresser tout le monde. Nous autres, on n'avait plus le droit de jouer au ballon-quille. Parce qu'on était trop agressif. Mais en étant trop agressif en jouant au ballon-quille, ça démontrait qu'on aimait ça jouer à ça.
Ben oui.
Il y avait au moins
vous
ça.
Vous enleviez peut-être le goût à d'autres de jouer.
Ouais.
On était tous dedans. Mais okay. Trop pour l'école.
Parce que moi, j'ai des souvenirs de ballon chasseur aussi qui finissaient mal. Là. Ça peut enlever le goût à du monde d'aller au cours d'éducation physique aussi. Là.
J'ai recommencé à jouer adulte et c'est une des plus belles choses. Hein,
le fameux drapeau aussi dans les cours d'école. Bon, on en parle tout à l'heure avec Mathias. BLVD 101, c'est l'application App Store, Google Play Store. Allez la télécharger, c'est gratuit. Twitch.tv/BLVD/FM, c'est sur Twitch. Vous pouvez venir voir nos belles faces. Et abonnez-vous à notre page YouTube, notamment le caucus avec Antonine Iaccarini s'y retrouve à chaque jour. Je vais commencer cette émission-là avec un éditorial. On serait censé à l'heure actuelle, depuis 7 minutes, parler avec le ministre et leader du Québec, Joël Lightbound. C'était prévu pour midi à 11h45. J'ai texté l'équipe de Joël Lightbound pour dire « c'est toujours beau pour midi ». Et à 11h48, on m'a répondu « ah non, on a un changement d'horaire ». On ne sera pas disponible. Bien, ce Joël Lightbound-là, je cours après depuis 3 semaines. Pourquoi je cours après depuis 3 semaines? Parce que Curam est rendu à 6,6 milliards. Puis le gouvernement libéral s'en lave les mains. On entend un McKinnon, un Stephen McKinnon, le ministre, rire aux éclats. Ah, 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 le Bloc québécois, vous venez même pas à la commission. Ah, 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 ah. Il rit de nous autres en pleine face à coût de 6,6 milliards de dollars. Joël Lightbound a dit la semaine dernière, lorsque le plus haut fonctionnaire du programme informatique Phoenix, ce fiasco sur 10 ans, a décidé qu'il quittait, parce qu'on va remplacer Phoenix par Dayforce ou Day One, je me souviens plus, mais en tout cas, bref, ça devrait bien fonctionner, c'est le gouvernement fédéral qui s'en occupe.
C'est rassurant.
Ça devrait super bien aller. Mais ben, Joël Lightbound a dit « Alex Bénée part avec la maison en ordre. Il reste encore 116 000 fonctionnaires fédéraux que Phoenix ne fonctionne pas pour eux autres 10 ans après. » Il y en a là-dessus que leur maison, on est obligé de la vendre parce qu'ils n'ont pas leur paye. Mais la maison est en ordre. Fait qu'on voulait parler à Joël Lightbound de ça. Il y a une chicane encore avec le gouvernement du Québec concernant l'immigration. D'ailleurs, on va voir Jean-François Roberge, ministre de l'immigration, à 12h30, ici même sur les ondes de Boulevard 102.1. Jean-François Roberge qui dit, c'est bien beau, vous avez débloqué des permis temporaires, mais le conjoint, la conjointe, c'est pas débloqué. Fait que vous voulez qu'ils fassent quoi, le monde? Ils retournent chez eux, crime. Ils laisseront pas la famille repartir.
C'est
autres
comme la française ici qu'on avait reçue dans On en jase un peu avant Noël.
Exactement.
Là.
Donc, on voulait questionner Joël Lightbound là-dessus. Est-ce que vous allez donner les permis aux conjoints et conjointes? Ben là, il veut pas répondre. Ben, on va laisser la place à Jean-François Roberge pour cracher sur le fédéral.
C'est du monde souvent qui veulent travailler, qui sont là. Pour beaucoup, ils ont des études. Puis, entre autres, ce monsieur-là, son conjoint, lui, il travaille pour la Sopfeu.
En effet.
T'sais, c'est le genre de choses où on a besoin de la main-d'œuvre en ce moment.
Mais Jeff, moi, je trouve que c'est juste vraiment un manque de respect d'annuler une entrevue à dernière minute comme ça. Puis c'est un manque de respect envers toi parce que toi, t'as perdu ton temps, évidemment, mais c'est tel que tel.
Oui, parce que là, tout le matin, on a planifié, là, parce que son horaire, apparemment, qui permet pas d'avoir 10 minutes avec nous autres.
On d'autres entrevues parce qu'on dit, ben non, on a le lieutenant du Québec, on a plein de questions à lui poser. Mais c'est surtout, je trouve, un manque de respect envers les auditeurs.
Ben vraiment.
Qui ont le droit d'avoir des réponses sur des sujets très importants. Notamment les programmes informatiques, je m'excuse, mais c'est notre argent. Puis effectivement, c'est plus facile de dire des lignes de presse, quand on ne répond pas aux questions des journalistes. Mais une fois qu'on pose des questions, on se rend compte souvent que tout va bien, là, qu'on nous sert au gouvernement fédéral. Ce n'est pas tout à fait ça. Là.
Oui, je voulais savoir s'ils vont exiger aussi que le remplaçant de Michael Rousseau, qui va quitter en septembre, le PDG d'Air Canada, est-ce qu'on va exiger qu'il soit bilingue? Je voulais savoir ça, moi. Mais non, pas là, Joël Lightbound, pour répondre à ça. C'est le député de Louis-Hébert, en passant. Louis-Hébert, c'est ici, dans la région de Québec, là. Fait que Laura, Mark Carney, Laura Libéraux. Là. C'est drôle, Bam, si j'avais dit en premier lieu que j'allais parler de son annonce boboche que le fédéral a faite en... pour l'armement, là, aujourd'hui. Là. Ça, là, c'est sûr qu'il serait venu. Hey, ben oui, parce qu'il me l'a demandé. Hey, on peut-tu parler de mon annonce en premier? Je te parle pas de ton annonce en premier. Je te parle de Curam, de l'immigration, puis de... Puis de Michael Rousseau. Puis après ça, c'est le reste du temps, on parlera de ton annonce.
Mmh. Fait qu'il y avait un manque de courage, selon toi,
d'avoir
ça?
Ben oui, si j'avais dit oui pour son annonce, qu'est-ce que tu penses qu'il aurait fait? Il serait venu, il aurait pris le crachoir. Il a essayé de nous endormir avec son annonce. J'ai dit, ton annonce n'est pas dans les priorités des Québécois. C'est Curam à 6,6 milliards. C'est l'immigration avec le monde qui sac leur camp. C'est Michael Rousseau qui quitte Air Canada. C'est ça, les priorités. L'annonce viendra à la fin, s'il reste du temps.
Mais c'est bien en plus parce que, au pire, mettons que tu veux parler du problème en immigration puis du manque de coordination entre Québec puis Ottawa là-dessus, tu peux toujours demander la ministre de l'immigration fédérale, Mme Diable.
Ah, elle parle pas français.
Elle parle français.
Ah, OK.
Elle fait juste refuser les entrevues, mais elle parle très bien français.
Ah,
là.
Je savais pas. Je pensais qu'elle parlait pas français.
Ben
je
oui, tout s'est dit, elle fait pas d'entrevue au Québec, elle doit pas parler français. Ben erreur. Non. Elle fait juste se cacher.
Ouais, elle fait juste se cacher.
C'est le fun, on n'a pas de réponse du fédéral.
C'est
après ça,
ça
honnêtement, on voit le manque de coordination entre Québec puis Ottawa. Je pense que le gouvernement de la CAQ n'est pas toujours parfait, là. Mais quand tu vois comment ça fonctionne, ça te donne-tu une idée de comment c'est le fun de transiger avec Ottawa? Moi, j'ai travaillé au cabinet d'un ministre de l'Immigration. Là. C'est pas agile, là. Ça répond pas vite au téléphone. Ça va regarder ça. Ça te revient dans 6 mois. Hey, oh, allô?
Ben écoute, c'est sûr que tout à l'heure, je vais amorcer l'entrevue avec Jean-François Roberge en lui demandant, coudonc, c'est vous qui avez semé à pagaille en enlevant le PEC? Parce que c'est depuis ce temps-là que la pagaille est semée.
C'est ce qu'Ottawa aurait dit. Si M. Lightbound était venu, c'est ça qu'il t'aurait dit. Il t'aurait dit qu'il n'y avait rien qu'à pas fermer le PEC.
Par contre,
c'est ses affaires qu'on ferme des programmes, c'est provincial.
Mais ça fait des semaines qu'il dit que non.
Par contre, ce qui arrive dans ceci, c'est que oui, c'est peut-être de la faute du provincial avec le PEC. Peut-être qu'il y a une partie de responsabilité qui revient au provincial, j'en suis convaincu de ça. Mais le fédéral, là, depuis le mois de décembre que Jean-François Roberge dit « Faites juste délivrer permis temporaire, puis on va y gérer dans le nouveau programme. » Ben tabarouette, ils ont fait ça en début mars. Ça leur a pris 3 mois.
Puis ils l'ont fait à moitié. Puis ils le font à moitié.
C'est ça. Ils le font à moitié, puis ça leur a pris 3 mois pour le faire.
Imagine.
Puis là, qu'est-ce qu'ils font? On leur demande des entrevues là-dessus, puis ils disent « Hey, j'ai d'autres choses à faire! Salut, là! » Regarde, là, il ouvre la porte puis il s'en va en arrière.
Jeff est parti pour information. Il a quitté le studio.
Mais non, mais là, c'est fâchant. Mais c'est fâchant pour les auditeurs. C'est fâchant pour les personnes immigrantes qui, à l'heure actuelle, sont pris avec la problématique. Puis qu'eux autres, là, ils peuvent pas rester ici.
Mais tu sais quoi, Jeff? Là, je vais le défendre un peu. Vas-y probablement donc. Qu'il n'a pas la réponse. Parce que
là,
probablement que même entre eux autres, ils sont pas capables de se parler. Puis que le dossier de l'immigration, à mon avis, là, ça doit être le plus embêtant pour les politiciens. Mm-hmm. Les gens maîtrisent tellement pas le sujet qu'ils disent, moi, après 2 questions, je vais être pogné. Hein? Parce que c'est compliqué.
Je le sais.
Mais faites-nous un effort pour comprendre.
Ben
puis
oui.
Faites un effort pour venir expliquer aux
gens. Ben faites-nous le même effort que nous autres, dans le fond.
Ben, c'est ça.
Parce qu'en genre, on fait des recherches.
Si on est capable de
poser
comprendre,
bonnes questions.
Je crée bien que des fait ministres que sont capables.
Si je suis capable de comprendre que ce que tu as donné aux immigrants temporaires, ça fait pas parce que ça suit pas pour le conjoint puis la conjointe. Normalement, si t'es ministre et leader du Québec, tu devrais être capable de le comprendre, d'amener une piste de solution à ta ministre qu'on sait pas est où.
Ouais. Mais je pense
puis
qu'il
de
doit
la mettre en place.
C'est un homme intelligent, je pense qu'il comprend. Mais je pense qu'ils ont rien de bon à dire aujourd'hui. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on répond pas.
Ouais, c'est ça. Et ça, on se cache, on se terre derrière le silence. Pascal Sévan, avant qu'on commence officiellement le caucus Iaccarini qui commence à chaque jour de midi à 12h30. Mais là, on est parti sur une envolée contre Lightbound et l'immigration. Fait du bien, hein? Ça fait du bien, Antonine?
Ben écoute, on en a un petit peu d'accumulé aussi, faut dire. Là.
Ben c'est ça, bon, la frustration. Quelles sont les 3 nouvelles les plus importantes aujourd'hui, Pascal?
Ben, c'est sûr qu'on vient d'en aborder quelques-unes. Fait que je vais y aller ailleurs. En fait, terminé pour Air Canada pour l'anglophone Michael Rousseau, hein, le PDG de l'entreprise aérienne qui a annoncé qu'il va prendre sa, je vais la mettre en parenthèse, retraite d'ici septembre. Après avoir été au cœur d'une controverse linguistique la semaine dernière, je vous rappelle qu'il y a plusieurs politiciens québécois qui avaient réclamé son congédiement après qu'il ait fait des condoléances en anglais aux familles éplorées des pilotes décédés dans la tragédie sur le tarmac de l'aéroport de LaGuardia à New York. Et CA veut maintenant un PDG qui part parle français. Les réactions sont multiples. Élection québécoise 2026, on a appris que Québec solidaire veut faire de l'habitation sa priorité, donc un plan qui se divise en 5 axes, avoir des logements plus abordables, défendre les droits des locataires, augmenter l'offre de logements sociaux et communautaires, puis faciliter l'accès à la propriété. Bien sûr, on ajoute à ça lutter contre la spéculation immobilière. Pour eux, c'est primordial. On a des enquêtes publiques, vous le savez, sur les accidents avec les camions lourds dans la strate chauffeur à rabais. Et là, le coroner va se pencher sur 3 décès. Ce sont les audiences publiques du coroner qui ont commencé aujourd'hui dans le cadre de cette enquête-là. Et ça va porter sur les décès de Madeleine J. Darby le 15 juillet 2025 à Ange Gardien, non l'Ange Gardien, et ceux de Tania et Elliott Lalonde survenus le 27 août 2025 à Boucherville. C'est peut-être le début de bien des choses, mais on prend en compte énormément de causes dans ce cas-ci. Je vous rappelle, puis les données m'ont ressaisi ce matin. La Société de l'assurance automobile du Québec, en 2024, annonçait que 100 des 379 décès qui se sont produits sur les routes sont survenus à la suite d'accidents impliquant un véhicule lourd. Augmentation de 35,1% comparativement à 2023. Et l'explosion des coûts des repas d'hôpital, ça représente un casse-tête pour les établissements québécois. L'inflation joue un rôle important là aussi. On pouvait lire ce matin dans le Journal de Québec que les coûts d'un plateau de repas pour patients a explosé jusqu'à 60%.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Tellement vrai qu'on vous explique ça simplement que nous autres, on est capable de vous expliquer l'immigration. Caucus avec Antonin Iaccarini de midi à 12h30, du lundi au jeudi. Comment ça va, Anto?
Ça va très bien. Là, on avait l'air de mauvaise humeur, mais en fait, on est de très bonne humeur, là. Maintenant qu'on a ventilé sur le manque de respect.
OK, on continue dans notre bonne humeur.
Bonne humeur.
La retraite de Michael Rousseau.
Bon, ça, c'est une bonne nouvelle.
Là, ça va nous prendre un PDG bilingue, s'il vous plaît.
Oui. Puis là, est-ce que, puis ça, c'était une bonne question que tu aurais pu poser. Est-ce que le gouvernement va l'imposer? Parce que on sait qu'on a des attentes et des, disons, des exigences envers Air Canada, qui est une ancienne société de la couronne et qui est une entreprise à charte. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines choses qui sont imposées au niveau des langues officielles. Et M. Rousseau, malgré 350 heures de cours de français. 300. Honnêtement, les amis, là, non, j'en rendu là, soit que c'est pas vrai, OK? Ou c'est vrai, puis dis-le pas.
Non,
dis
c'est ça.
Dis-le pas! Tu sais, je veux dire...
Parce que là, t'as l'air con en tabarouette, là.
Tabarouette. Donc, on se souviendra de M. Rousseau, mais je pense que le conseil d'administration d'Air Canada, c'est tanné de revivre la même crise encore et encore.
Oui.
Puis on en jasait la semaine passée, mais je vous disais, moi, si j'étais membre du CA, je me dirais, là, comment ça se fait, guys? Moi, peut-être que je comprends pas, là, mais me semble qu'on est en train de revivre exactement la même crise une deuxième fois. Puis d'habitude, en gestion de crise, tu fais un débrief, tu dis, comment je peux éviter que cela réarrive?
Mais là, je peux pas te dire qu'il va faire des cours de français quand il a fait 350 heures.
Les excuses puis les cours, ça passera pas une deuxième fois. Donc, on nous dit plusieurs mois d'avance, un bon 6 mois d'avance, que M. Rousseau va prendre sa retraite, entre guillemets, comme dirait Pascal.
Mais c'est correct aussi que ça se fasse progressivement, là, parce que dans n'importe quelle entreprise, là, Rousseau peut pas sacrer son camp, puis l'autre embarque, puis il est pas au courant des dossiers.
Non, il faut faire une transition, ben, et correct, c'est bien correct. Et
on va endurer son anglais pour 6 mois encore. Là.
Ça a l'avantage de faire baisser un peu la chaleur, parce qu'évidemment, les gens attaquent moins, ils disent, il s'en va de toute façon, Les yeux vont être tournés vers son successeur ou sa successeur. En tout cas, on va retenir de cet événement-là. Moi, ce que je retiens le plus de cet événement-là, c'est beaucoup plus la réaction des anglophones, c'est-à-dire qui n'ont pas compris pourquoi on était fâchés.
En effet.
Donc, ça illustre l'énormité du fossé. Et moi, je trouve qu'il y a une espèce de anglo-privilege, là, un privilège anglo. Ils nous regardent et ils se disent, mais voyons, c'est comme si on était des enfants de 2 ans qui avaient fait une crise du bacon au salon funéraire.
Oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas lutté pour leur survie comme nous autres. On a lutté après la tasse de thé, c'est pleine. Là. J'ai toujours ça pour imaginer.
Les
pichettes de blé d'Inde. J'ai mais c'est ça, c'est normal. Je pense que j'ai une certaine compréhension qu'ils ne comprennent pas. Là. Je le dis très
J'aimerais
mal.
J'aimerais ça qu'ils essayent de comprendre.
Mais... Exactement, mais c'est l'effort qui n'est pas mis de leur côté qui vient m'agacer.
Oui, puis ils sont bien bons pour nous faire la morale, par exemple, quand il faut qu'on fasse un effort pour comprendre toutes les minorités au Canada. Ça, il faut le faire, puis ils nous jugent, puis là, ils trouvent qu'on est des petits attardés là, dans ce temps-là. Mais par exemple, de comprendre la réalité des francophones dans ce pays-là, ça, c'est pas important, puis c'est pas intéressant.
Est-ce qu'on est victime de notre bienveillance? Et je m'explique, ici, dans le studio, on serait 10... Il y en a seulement un qui parle uniquement anglais, puis les 9 autres, on se forcera à parler anglais, alors que ça devrait être lui qui se force à parler français.
Ben, c'est, en fait, c'est au Québec, les francophones sont davantage bilingues que les anglophones.
Mm-hmm.
L'anglais, c'est la langue des affaires. C'est une langue qui est internationale. Hey, on n'est pas... Tu sais, bien que, des fois, certains anglophones essaient de nous caricaturer comme étant des petits villageois, là, en retard. Là,
ben non, ouais, on est ouvert sur le monde en grime. Là.
On est ouvert sur le monde. On est capable de parler deux langues, alors que la plupart des anglophones que je connais sont pas capables de parler une autre langue. Ouais. Donc, évidemment, quand tu as un anglophone... Moi, j'ai travaillé dans le secteur privé. Mm-hmm. Il y avait des anglophones, des francophones. Évidemment, si on est... 10 francophones puis un anglophone qui ne sait pas parler un mot en français, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
C'est clair.
On n'a pas le choix. Sinon, il n'y a pas de réunion, là.
Non, tu as entièrement raison.
Fait donc, que... c'est pas d'être colonisé, c'est juste de, mm-hmm. d'être face à l'unilinguisme des anglophones pour plusieurs. Puis, tu sais, il faut quand ouais. même rappeler qu'il y a beaucoup d'anglophones, notamment qui vivent au Québec, qui parlent un excellent français, là. Je veux dire, il ne faut pas non plus... j'ai vu plusieurs représentants du monde des affaires qui sont des anglophones à la base puis qui sont sortis pour dire, tu sais, il y a pas mal de chefs d'entreprise anglophones mm-hmm. qui font un effort aussi. Et c'est vrai, mais ça a quand même mis en lumière ce fossé là, qui existe. Puis cette absence un peu de préoccupation et d'intérêt... pour la défense de la langue française, surtout à Montréal. C'est ça qui avait choqué avec Michael Rousseau, c'est qu'à Montréal, on a un défi très, très grand de protéger le français. Et quand quelqu'un sort puis nous lance en pleine face que tu peux vivre à Montréal pendant 15 ans sans apprendre un mot de français, puis en s'en foutant complètement, ben je veux dire, tu nous donnes une claque d'en face, puis c'est un manque de respect.
C'est fou, en texto, il y a aussi un autre aspect qui ressortait aussi la semaine dernière, c'est les gens qui disent que bien, c'est un enjeu de péquistes fâchés. Fait qu'il y a des gens au sein même du sûr. Québec, puis à Québec, etc., qui se disent « Hey, c'est pas un enjeu, qui n'ont pas la défense de la langue française dans le même mm-hmm. visuel que d'autres personnes. »
Bien, on n'est pas non plus des nations homogènes. Là. J'ai vu plein d'anglophones aussi. Moi, j'ai reçu des beaux messages la semaine passée. J'avais fait des entrevues en anglais, fait que j'ai reçu plusieurs insultes francophobes aussi. Mais j'ai reçu aussi des messages d'anglophones qui me disaient « Hey, c'est super important. » Nous, on a vraiment encouragé nos enfants à apprendre le français, nanana. J'ai même une madame qui m'a écrit pour me dire à quelle adresse je peux envoyer une plainte. Moi aussi, je veux rajouter ma voix aux plaintes qui ont été
vraiment
faites au commissariat aux langues officielles contre Air Canada. Donc, c'est une réalité qui est quand même plus nuancée que mm-hmm. eux contre nous. Cela dit, la majorité, je veux dire, la majorité des commentaires qu'on a vus la semaine passée, c'était que les Québécois n'avaient pas rapport, faisaient leur petite crise, puis qu'on était, on était intolérants. En fait, j'ai même déjà entendu quelqu'un me dire « Le français, c'est divisif. » C'est divisif, le français.
Ah ouais? Ah bien. Je le trouve très inclusif, moi.
Ben, eux, ils sont comme « Voyons, ça fait des débats stériles. » Ben, c'est sûr, c'est facile quand...
Ben oui.
Quand c'est la quand personne majorité, qui doit défendre. Ben, c'est ça.
Ben, c'est ça, quand t'es la majorité, c'est facile de dire que la minorité a tort.
Et voilà.
Et voilà. PQ, t'animes un truc sur le « oui hein, » ce soir?
Oui, en parlant aller, de PQ se fâcher.
Ben, je vais peut-être y aller. Finalement, Lightbound, là, il me fâche, puis bon. Les Anglos aussi. Là.
Ce soir, à Québec, c'est le lancement du livre qui fait dire oui. Mm-hmm. C'est quand même quelque chose qui est un projet qui est intéressant parce que c'est non-partisan. C'est pas quelque chose qui est porté par aucun parti politique. J'ai reçu des messages. J'ai publié ça sur mes médias sociaux. Puis le monde me dit « Tu vas te présenter pour le PQ? » Non, ouais. Je ne vais pas me présenter pour le PQ.
OK, là, tu l'assures. Parce que Karine Gagnon nous assure aussi qu'elle se présentait pas pour le PQ la semaine dernière.
Merci de faire un lien avec Karine Gagnon.
Ben, c'est parce que Karine Gagnon, on s'arrête pas de dire qu'elle va se présenter pour le PQ. Elle nous a dit non. Fait que là, le PQ est déçu dans la région de Québec. Là, ils perdent deux bonnes candidates avec toi et Karine Gagnon. Là. Qu'est-ce qui va se passer?
Je suis sûre qu'ils vont trouver plein de bons candidats. Tu maintenant, penses? Le livre qui fait dire oui, c'est un projet. En fait, c'était un livre de Sol Zanetti au départ.
OK.
Et lui, il a
donc,
un
tu
peu...
vas te présenter pour QS.
Il a un peu remis le bébé au Oui Québec, justement, pour départisaner
ouais.
le projet. OK. Les Oui Québec, c'est une association qui fait la promotion de la souveraineté du Québec, mais qui est associée à aucun parti politique. C'est eux, notamment, qui ont ouvert le café souverainiste là, à Montréal, là, que vous avez peut-être vu passer. Ce soir, c'est le lancement de la troisième édition de ce livre. Donc, avec Maxime Larouche, notre collègue, notre cher collègue Max, on va
un vrai
cette
péquiste.
Soirée. Un souverainiste. Là, c'est ça, là. C'est pas une soirée du PQ. C'est une soirée des Oui Québec.
Mais continuons comme ça. Anto, t'es péquiste. Max est péquiste.
On garde notre neutralité. On n'est pas associé à aucun parti politique. Mais c'est un livre, c'est un projet intéressant parce que ça se veut un livre qu'on veut distribuer plus largement possible pour que mm-hmm. les gens le lisent. Après ça, tu te fais ta propre opinion.
Parfait.
Mais on encourage les gens à le distribuer, à le prêter, à ce que tout le monde au moins ait lu les arguments de ce côté-là. Puis ben, j'attends toujours le livre qui fait dire non. Mais...
Ouais, ben en autant qu'on me dise pas pour le livre qui fait dire oui, à ta minute, tu vas comprendre. C'est ça qui
ben, est-ce que ça serait
bon, on ferme la parenthèse.
Quelqu'un qui veut mener un débat là-dedans puis en jaser, ce serait vraiment une belle façon de faire. de... avoir un livre qui fait dire non. Puis ben après, oui. t'es en débat les deux.
Ouais. Pis...
Mais comme on disait à propos de la minorité tantôt, quand tu portes l'option qui demande un gros changement contre un statu quo, ben c'est sûr que le statu quo a moins à faire généralement que les gens qui proposent un grand changement.
Exactement. Et on le voit dans les nouveaux chiffres légers qu'on a entendu futer ce matin et qui vont être distribués normalement d'ici la fin de la journée, avec le PQ et le PLQ maintenant à égalité à 33 % des intentions de vote. Le Parti conservateur du Québec suit au troisième rang à 15 % La CAQ s'est divisée. Là, on ne serait pas loin de 15 avec Fréchette, mais avec Drainville, on est à 9 % à égalité avec Québec solidaire également, qui est à 9 % Chez les francophones, 41 % pour le PQ, 23 % pour le PLQ. C'est une méchante remontée. Il était à 8 ou 9 % il y a de cela un an et demi. 14 % pour le PCQ, 11 % pour la CAQ et 10 % pour QS. Donc, Charles Milliard a juste à s'asseoir dans son siège, faire des petits sourires, pas dire grand-chose, dire « je vais chauffer l'autobus du non ». Puis, paf, le PLQ est à 33 %
C'est-tu beau, la vie? Moi, je suis jalouse de ne pas être fédéraliste.
Mais non, mais c'est vrai. Pendant ce temps-là, PSPP, là, se débattre comme un diable dans l'eau bénite, expliquer ses affaires, puis tout, ben t'inquiète. Oui. Puis l'autre, il est assis comme... Hey, il est au salon de massage.
La force de l'inertie.
Puis il monte.
Ben oui.
La CAQ se débat entre Fréchette et Drainville. Eux autres, ils plantent. Puis Milliard est silencieux. Il fait juste monter dans les sondages.
Il faudrait juste pas que l'UPAC arrête quelqu'un, mettons.
Ouais, mettons.
Si l'UPAC, s'il n'y a rien qui ressort de ça, honnêtement, il est sur une autoroute plutôt
mais
tranquille.
Mais là, tu m'amènes à être encore plus cynique.
Ben là.
Comment un parti politique, l'UPAC dans le derrière, fait pour gagner 7 % d'un sondage?
La force de l'inertie. C'est simple, hein?
Ah, la politique m'énerve aujourd'hui, je m'excuse.
Ben, je comprends.
Je suis cynique.
Je comprends ton cynisme, mais ce qu'il faut retenir de ce sondage-là, là, je le mets en guillemets parce qu'on n'a pas encore les chiffres, hein, c'est LCN qui a teasé son sondage. Après moi, ça va sortir plutôt vers 16h cet après-midi. Ce qu'on comprend, c'est que le PQ est quand même un peu dans le trouble. Là, puis ça fait déjà un petit moment qu'on se dit, t'sais, le contexte international avec les Américains, l'économie...
PLQ 23 % francophone, ça veut dire que c'est PLQ minoritaire, selon moi.
C'est ça. Puis les plaques tectoniques continuent de bouger, là. Faut pas non plus penser que ce sondage-là, c'est ce qui va se répercuter l'automne prochain, mais quand même, là, on voit que, ben, premièrement, la CAQ est en grande difficulté. On savait que le départ de M. Legault ouvrirait une fenêtre d'opportunité, mais effectivement, c'est pas gagné là, pour la CAQ de réussir à aller rechercher quelques sièges. Mme Fréchette, là, qui avait des résultats un peu plus élevés que M. Drainville, mais elle a beaucoup baissé depuis le début de la course aussi. Puis, d'ailleurs, il y avait un débat en fin de semaine. Je le regardais puis je me disais, il est temps que ça finisse cette course-là, honnêtement, parce que je pense que cette course-là contribue à couler la CAQ en ce moment.
Vraiment. On va y revenir sur le débat parce qu'on a la chance d'avoir au bout du fil Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration pour la Coalition Avenir Québec. Monsieur Roberge, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui.
Oui, bonjour. J'ai décidé de ne pas vous faire faux bond, finalement.
Ben oui! On vous remercie. On a eu faux bond de votre homologue, M. Lightbond. Ben, c'est pas l'homologue à l'immigration, mais c'est le leader au Québec. C'est lui qui prend beaucoup de place là, pour les décisions au Québec. M. Robert, est-ce que ça part de l'abolition du PEC, toute cette... ce chaos autour de l'immigration? Parce que moi, quand je regarde ça, je me dis, si on n'avait pas enlevé le PEC, on n'aurait pas de problème.
Non, honnêtement, il n'y a pas de lien. Le chaos, c'est un peu fort, là.
Ben là, il y a pas mal de monde qui doivent faire leur valise puis partir. Je trouve que c'est un bon chaos, là. Vous relancez à la balle, vous puis les fédéraux, depuis le mois de décembre, là. Commencerez à penser qu'il n'y a pas trop de cohésion entre vos deux, là.
Ben, c'est difficile de faire quand on dit le tango, ça se danse à deux. Puis vous avez raison de dire qu'il y a des gens qui font leur valise, puis c'est malheureux. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés ici, qui veulent rester. Certains qui veulent rester plusieurs années comme temporaire, mais ils veulent pas nécessairement déménager ici, ils veulent faire un coup d'argent, puis c'est correct, ils ont envoyé de l'argent à leur famille, puis il y a des gens qui veulent faire leur vie complète ici, mais dans les deux cas, ce sont des personnes qui occupent des emplois, qui contribuent, puis très souvent même en région, hein, puis région, je veux dire, à l'extérieur du Grand Montréal, là, et l'enjeu, c'est qu'Ottawa ne renouvelle pas ces permis-là, puis ça arrive au même moment, et vous savez, des fois, deux choses peuvent arriver au même moment, puis il n'y a pas nécessairement de lien de causalité. C'est vrai qu'on a annoncé le remplacement de l'ancien programme, le PEC, par le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés. Mais passant d'un programme à l'autre, on a gardé le même nombre, ou à peu près le même nombre d'immigrants économiques au Québec. Donc, grosso modo, là, on va accueillir 45 000 personnes par année. 6 000 réfugiés, 10 000 réunifications familiales et 29 000 économiques. Les 29 000 économiques, là, avec au PSTQ, c'est 29 000 personnes pareilles. D'accord? Il n'y en a pas plus.
La seule différence, c'est qu'on les mettait dans des programmes où on a besoin de travailleurs qualifiés plutôt qu'un peu n'importe où avec le PEC. C'est ça que je comprends.
Bien, le PSTQ nous permet d'être plus sélectif puis de s'assurer que ce sont des personnes, par exemple, qui travaillent en santé, en éducation, mais qui travaillent aussi dans le manufacturier, sont aussi pas juste à Montréal. Dans l'ancien programme, 60 % des gens étaient sélectionnés à Montréal. Dans le nouveau programme, 60-65 % sont sélectionnés à l'extérieur de Montréal. Donc, ça nous aide à garder nos régions bien vivantes. Puis, on l'a vu dans plusieurs régions, ils ont eu autant de personnes sélectionnées dans le nouveau programme en 3 mois que dans le PEC en une année entière. Donc, et là, je ne veux pas entrer dans le débat de PEC-PSTQ, on en a parlé un peu, mais la question, c'est, on peut-tu garder là, les gens qui sont ici, hein? Que ce soit de manière permanente ou au moins en renouvelant leur permis temporaire. On peut-tu faire ça? Puis c'est là où, pendant que Québec sélectionne des immigrants, bien, Ottawa les expulse. Et c'est ça le problème. Ils ne veulent pas renouveler des permis de travail de personnes qui répondent à des besoins ici et maintenant. C'est un peu pour ça que des gens disent, ben voyons, entendez-vous, Québec-Ottawa, ben, moi, je veux bien m'entendre, là, mais s'ils continuent d'expulser des gens qui travaillent dans nos régions, dans nos usines, dans nos hôtels, dans nos hôpitaux, c'est difficile là, pour moi de m'entendre avec eux. Je ne veux pas me mettre à dire qu'ils ont raison tout à coup, là.
Il y a des gens qui sont un petit peu mélangés face au message du gouvernement, de votre gouvernement, en fait, en matière d'immigration, puis notamment l'immigration temporaire, parce que pendant le premier mandat, on ne parlait pas beaucoup de ça. Il y en avait un grand nombre d'immigrants temporaires. Quand on regardait la planification de l'immigration, c'était énormément de gens, puis le gouvernement ne parlait pas de couper là-dedans au départ. Après ça, on s'est mis, le monsieur Legault notamment, s'est mis beaucoup à parler qu'il fallait couper, il y a trop d'immigrants temporaires. Après ça, le fédéral décide de couper dans les immigrants temporaires. Et là, vous vous retrouvez à dire « Wow, 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 là, vous coupez trop dans les immigrants temporaires, il faut rallonger les permis de travail. » Comprenez-vous un peu les gens d'être un petit peu mélangés face à vos messages?
Oui, je comprends qu'il y a une complexité. Écoutez, il y a les permanents, il y a les temporaires, il y a ce qui relève de Québec, il y a ce qui relève d'Ottawa. Puis parmi les temporaires, qui sont très, très nombreux, plus de 550 000 au moment où on se parle, mais il y a toutes sortes de catégories. Donc, je comprends la confusion, mais des fois, je dis à mon équipe, on va pas se mettre à faire des mauvaises politiques pour faire des bonnes communications. Donc, j'accepte que ce soit complexe. Je prends les meilleures décisions au meilleur de mes connaissances, même si des fois, je suis un peu condamné à devoir expliquer quelque chose de très complexe. C'est vrai qu'on a demandé une réduction du nombre de temporaires sur le territoire québécois et je l'assume pleinement, mais il faut faire la part des choses. Un demandeur d'asile, puis il y en a plus de 160 000 sur le territoire québécois qui ne parle pas français, puis qui est à Laval ou à Montréal, c'est pas la même chose qu'un travailleur à Québec qui parle français, qui est intégré depuis 2-3 ans. Les deux sont à statut temporaire. C'est pas normal qu'on reçoive entre 35 et 50 % des demandeurs d'asile du Canada. Il y en a trop. On veut les répartir dans le reste du Canada. Puis ça pose des enjeux en matière d'écouter de finances publiques, en matière de logement. Donc, je suis capable de dire que je veux réduire le nombre de temporaires en pensant surtout aux demandeurs d'asile qui nous sont parachutés au Québec. Puis je suis capable de dire que je veux garder mes travailleurs étrangers temporaires sur le territoire québécois. Puis je pense que c'est un message qui est cohérent si on prend le temps de l'expliquer.
Monsieur Roberge, il y a eu beaucoup de confusion aussi au niveau de l'apparence du Québec dans ce genre d'affaires-là, d'aller recruter à l'international, de faire des promesses, de demander de l'aide, de les convaincre que ça va être une super belle vie pour finalement renvoyer d'autres à la maison. Comment est-ce que vous allez travailler sur cette image du Québec qui a été hautement entachée?
En expliquant les choses, comme je dis, le Québec n'expulse personne. Nous, on va sélectionner des personnes, surtout dans nos secteurs très, très prioritaires, là, santé, éducation, famille, construction, génie, dans certains cas, le manufacturier aussi. Puis ces personnes-là, on les attire ici avec des permis temporaires, avec des études même de marché du travail pour être sûr qu'ils n'arrivent pas pour prendre l'emploi d'un Québécois. Il faut que l'employeur puisse prouver que cet emploi-là, il l'a affiché puis qu'il n'y avait pas de Québécois qui voulait faire le travail avant de le faire venir. Donc, moi, je suis pas gêné pour des secteurs très prioritaires de faire du recrutement international, pour préserver nos services puis notre économie en région. Je suis pas gêné de faire ça en étant très, très, très ciblé. Puis je sais que ces personnes-là, en plus, sont tellement prioritaires que dans le cadre de mon nouveau programme, et c'est très cohérent, je vais les sélectionner. Ça s'appelle PSTQ, Programme Sélection des Travailleurs Qualifiés. On va pas y aller le premier arrivé, premier servi. On va dire, toi, là, même si ça fait un an que tu es ici, je te sélectionne devant quelqu'un que ça fait 7 ans qu'il est ici, mais dans un secteur qui n'est pas prioritaire.
Concernant la diplomation, est-ce qu'on va travailler justement, est-ce que autrement dit, le mix se fasse mieux? Parce qu'aujourd'hui, dans le soleil, là, on a un psychiatre qui était psychiatre en France, mais qui n'est pas capable d'être psychiatre au Québec. On en manque 125. Il me semble qu'on devrait faire un petit effort de notre côté.
Ça, c'est vrai qu'il y a des enjeux, des fois de reconnaissance, des diplômes. Puis je vous dirais que les milieux d'enseignement supérieur ne se valent pas partout à grandeur de la planète, mais je pense que les diplômes de France, là, vous avez raison de le dire.
Oui, bien, c'est ça.
Je pense que...
Si je suis capable d'être psychiatre en France...
Français, là, je pense que c'est de la grande qualité. Il y a du travail qui doit se faire en immigration, mais aussi avec les autres professionnels. Je peux pas tout gérer ça, mais je suis avec vous pour dire que ça n'a pas de sens là, qu'on ne reconnaisse pas des diplômes d'université française. Là. C'est quand même un pays du G7 avec des universités de grande qualité. Là.
Pour rappel, on parle avec Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration et de la francisation et de l'intégration au niveau du gouvernement du Québec. On parle des problèmes d'immigration temporaire avec le gouvernement fédéral. Monsieur Roberge, qu'est-ce que vous pensez de votre course à la chefferie? Appuyez-vous encore Christine Fréchette? Parce que vous l'avez appuyée au début, mais elle vous a planté un petit couteau dans le dos en maintenant en pleine course à la chefferie. Là. Vous faites quoi avec ça?
Oui, j'appuie toujours Christine Fréchette. En fait, c'est pas un couteau dans le dos, c'est qu'on a fait le changement très vite. Là, si on revient à l'ancien programme PEC puis le nouveau PSTQ, ça s'est fait rapidement. Les gens ont été peut-être échaudés. On pensait qu'ils pouvaient tomber dans les cracks du système. Je reconnais qu'on peut faire une meilleure transition entre l'ancien et le nouveau programme.
Parce que vous avez quand même pas parlé avant, là. T'sais, elle ne vous a pas parlé avant, là, quand même. Là, c'est difficile.
Oui, on s'était parlé. Oui? J'avais parlé autant avec. Je parle autant à Bernard qu'à Christine en continu. Vous savez, on gouverne avec le premier ministre et le conseil des ministres actuel. Mais la main gauche parle à la main droite. Après ça, les gens font leur communication. Je n'ai pas d'enjeu à continuer d'appuyer Christine Fréchette. Si vous me permettez, j'aimerais juste revenir sur M. Lightbaum et Mme Diable, la ministre de l'Immigration. Allez-y. Il y a un article de Radio-Canada aujourd'hui là, qui dit « Québec sélectionne, Ottawa expulse ». Il y a des témoignages de deux femmes qui sont des enseignantes. Et c'est des permis qui relèvent à 100% d'Ottawa. Okay? Je ne peux pas les renouveler, ces permis-là. Ce sont des Françaises, donc niveau de français là, exemplaire, qui travaillent dans notre réseau d'éducation. Elles veulent continuer de travailler. On les a sélectionnées en plus dans le programme. Quand je vous dis qu'on les priorise, là, on les a sélectionnées. Puis Ottawa dit « Non, moi je t'expulse dans 2 semaines, je renouvelle pas ton permis ». Nous, on est en train de leur donner la résidence permanente. Ottawa les expulse. C'est pas grave, vous reviendrez dans 3-4 mois quand les formulaires seront terminés. C'est là où je demande un peu de souplesse à Ottawa, que M. Lightbaum fasse son travail de lieutenant du Québec, que Mme Diab fasse son travail de ministre d'Immigration. T'sais, ça, c'est juste de la cohérence. Là, quand on sélectionne quelqu'un, de ne pas l'expulser pendant qu'on évalue le dossier.
Oui, effectivement. On ne sent pas beaucoup d'agilité et de souplesse du côté d'Ottawa, ça c'est certain. Mais je reviens quand même sur la course à la direction, parce qu'il y avait un débat samedi. Et la position des candidats sur le PEC, c'était quand même un enjeu très important. M. Drainville a chiffré, avec votre aide, si j'ai bien compris, qu'est-ce que ça voulait dire pour lui, ce qu'il proposait pour les orphelins du PEC, que je mets entre guillemets ici. Et lui, il les a chiffrés à 18 000. M. Drainville a questionné Mme Fréchette sur, elle, qu'est-ce que ça voulait dire là, de rouvrir le PEC pour 2 ans? Ça fait combien d'immigrants supplémentaires? Comment ça va fonctionner? Elle a répondu que c'était pareil, dans le fond, qu'elle rouvrait le PEC, mais que c'était à l'intérieur des seuils. Mais vous avez fermé le PEC parce qu'on les seuils étaient pas, on n'était pas capable de respecter les seuils fixés avec ce programme-là qui admettait en continu. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai ce que Mme Fréchette dit, que c'est possible de garder le PEC ouvert 2 ans? Et ce, sans avoir des seuils supplémentaires, des seuils qui seraient augmentés.
Je veux préciser que depuis quoi maintenant 5-6 semaines, là, j'ai demandé à mon ministère de faire des scénarios de transition un peu plus doux entre l'ancien programme et le nouveau, là, entre le PEC et le PSTQ. On a fait évaluer la proposition de M. Drainville. Il a raison de dire que ça voudrait dire à peu près 18 000 personnes. La proposition de Mme Fréchette, c'est à peu près 45 000 personnes. Donc, dans les deux cas, il y a moyen de faire une transition, de respecter nos seuils annuels.
Ça veut dire qu'on n'admet personne dans le PSTQ. 45 000, c'est ça, nos seuils.
Oui, mais attendez, Mme Fréchette a dit qu'elle voudrait écouler après ça sur 2 mois. Alors sur 2 ans, pardon, on peut écouler une banque de candidatures sur un certain nombre d'années. Comme en ce moment, on prend environ 2 500 personnes par mois, dans le PSTQ. Ma banque de candidatures est plus que 2 500, mais à chaque mois, on sélectionne 2 500. Donc, on est capable d'écouler une banque de candidatures, que ce soit le 18 000 de M. Drainville.
Mais là, vous ne pourrez pas prioriser
mois,
les enseignants et les infirmiers,
que ce soit
on s'entend?
Le 45 000 de Mme Fréchette, on est capable de l'écouler, que ce soit la banque de 18 000 ou la banque de 45 000, on est capable de l'écouler. On serait capable, dans les deux cas, d'avoir un nombre de candidatures. Par exemple, si j'ai 2 500 personnes par mois, je suis capable d'en réserver un certain pourcentage pour, on va appeler ça la clause de droit acquis, ou la période, disons, la mesure de transition du PEC, puis un certain pourcentage pour le PSTQ pour être capable de sélectionner justement des gens en région particulièrement, puis de sélectionner aussi des travailleurs. Donc, on est dans les deux cas dans une mesure transitoire qui n'est pas si loin l'une de l'autre, puis les membres feront leur choix, puis moi, je vais être à l'aise avec l'un ou avec l'autre.
Monsieur Robert, je termine l'entrevue en vous posant la question, est-ce que vous allez vous présenter aux prochaines élections?
Oui, absolument. Peu importe qui gagne la course à la chefferie, je demeure engagé pour la prochaine campagne. Donc, je vais être sur les rangs pour la course dans Chambly, dans ma circonscription, où je suis en ce moment, d'ailleurs, ce matin.
Ben, je tiens à vous féliciter parce que je regarde présentement sur Québec 125, PQ 37%, PLQ 25%, CAQ 18%. Dans votre comté, vous allez retourner à la guerre aux élections. Donc, félicitations pour votre courage électoral. Il y a plusieurs de vos collègues qui, quand ils regardent Québec 125, ils s'en vont. Vous restez. Ouais. Bravo.
Vous savez, on peut gagner tous les sondages qu'on veut. Hein. Moi, c'est l'élection que je veux gagner. Donc, le jour du vote, là, au mois d'octobre, on n'aura plus grand intérêt pour le sondage du mois de mars, ou le sondage du mois d'avril, ou le sondage du mois de mai. Là. Ça va se passer en octobre. D'ici là, on a le temps de prendre des décisions, d'écouter les Québécois, puis de leur proposer des choses pour l'avenir aussi. Qu'est-ce qu'on veut pour la suite des choses? Mm-hmm. Donc, le débat se fera, puis je serai sur les rangs.
Monsieur Robert, je merci beaucoup pour votre disponibilité aujourd'hui, comparativement à Joël Lightbound.
Merci, bonne journée.
Merci, au revoir. Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, Francisation, Intégration. Je peux bien donner quelque chose à Jean-François Roberge, qui est toujours présent. Oui. À chaque fois que je texte son attaché de presse et qu'il peut, il est là, il va à l'avant-plan puis il défend ses politiques.
Des fois, c'est un peu difficile, je pense, dans la façon de la défendre. Je ne sais pas si vous en pensez quoi, Antonine, entre autres, mais moi, il y a une question que je persiste et signe avec lui, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Où est-ce qu'on a pas réussi, en fait, dans cette ce revampement du PEC, pourquoi est-ce que cette décision-là n'est pas comprise par les gens? Il y a clairement quelque chose, puis il n'est pas capable de répondre quand il pose la question. J'ai pas osé aujourd'hui parce que j'y posais à chaque fois qu'on l'avait en onde. Mais ça serait quelque chose d'intéressant à savoir, là.
Ben, c'est ça, parce qu'il a raison de dire que quand on additionne la fermeture du PEC avec les permis de travail à Ottawa qui sont maintenant vraiment plus difficiles à renouveler puisqu'ils ont décidé de couper dans les immigrants temporaires, ça a créé une tempête parfaite. Mais on voit la mauvaise coordination entre les deux paliers de gouvernement. Il y a vraiment un enjeu de ce côté-là. Puis si on n'avait pas la certitude d'avoir un peu de flexibilité face à Ottawa, est-ce que ça pressait tant que ça, dans le fond? Mais il y a beaucoup d'incompréhension face au dossier aussi. Tu sais, je regarde... Tu sais, je vais revenir sur le débat dans la fin de semaine. M. Drainville a attaqué Christine Fréchette sur sa position de rouvrir le PEC pour 2 ans. Mais elle a répondu, non, mais moi, ça ne changera rien, dans le fond, sur les seuils d'immigration. Ça ne se peut pas que ça change rien sur les seuils d'immigration, Jeff, ça ne se peut pas.
Non. Bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont déjà ici qui vont s'en aller parce que tu vas rentrer dans un des travailleurs qualifiés au lieu de rentrer eux.
Tu ne pourras pas sélectionner dans le PSTQ comme tu voulais. S'il faut que tu respectes des seuils de 45 puis qu'il y a 45 000 personnes qui veulent rentrer, ça ne fonctionne pas.
En plein ça.
Je trouve que Jean-François Roberge est très bon avec sa candidate, qui est très gentil, il défend, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas et M. Drainville n'était pas capable de challenger Mme Fréchette plus que ça en débat parce que je ne suis pas sûre qu'il maîtrise tant que ça le fin débat, le contenu concernant comment ça fonctionne, les programmes d'immigration. Donc, finalement, tout le monde débat, mais avec niveau de connaissance.
Oui, puis moi, ce que je comprends aussi là-dedans, c'est qu'on a décidé de créer un nouveau programme qui est le programme des travailleurs qualifiés.
Oui.
Qui est une très bonne idée, soit dit en passant, de dire on va choisir l'immigration en fonction de nos secteurs économiques où on a le plus besoin.
Oui.
Mais dans les faits, en théorie, c'est super beau. En pratique, essaye de faire ça quand t'avais plein de monde qui était déjà en attente, puis qui sont ici, qui sont une coiffeuse, puis qui sont un cuisinier, puis qui sont ci, puis qui sont ça. Puis là, moi, je vais me qualifier, mais mon conjoint ne se qualifiera pas. T'sais, en théorie, là, le PSTQ, c'était écœurant.
Ouais.
En pratique...
Bien, puis il y a aussi toujours un débat sur... Tu sais, mettons, j'ai beaucoup d'empathie pour la coiffeuse. Mais oui. C'est de l'immigration économique. Donc, jusqu'où le gouvernement doit aller pour sélectionner en priorité. Ça ne veut pas dire que la coiffeuse ne rentrera jamais.
Non.
Mais ça veut dire que si on a une pénurie d'enseignants ou d'infirmiers, qu'on va pouvoir les prioriser. Si on a des régions dans lesquelles on veut avoir plus de gens, etc. Puis d'ailleurs, tu sais, ce PSTQ-là, si les libéraux rentraient puis qu'ils voulaient mettre 80 000 de seuil d'immigration, puis let's go tout le monde, ils peuvent le faire aussi à travers le programme du PSTQ. C'est juste qu'avec le PEC, il n'y avait pas vraiment de contrôle, mais... Cela dit, la solution de Christine Fréchette de rouvrir le PEC pendant 2 ans, bien, c'est 2 ans supplémentaires où tu ne peux pas prioriser dans les secteurs prioritaires. Puis il faut, c'est correct, c'est une position que tu as le droit d'avoir. Il y a plein de gens qui défendent le PEC en ce moment, trouvent que c'est un bon programme, que les gens s'intègrent bien. Parfait, mais il faut qu'elle dise la vérité.
Oui.
Moi, j'ai trouvé que j'écoutais le débat, puis tu sais, j'ai une connaissance correcte des programmes d'immigration, je ne suis pas une experte non plus, puis je me disais... Les deux disent n'importe quoi présentement, puis ça, c'est venu me chercher un peu. Parce qu'en plus, il y a un manque de compréhension dans la population. Je m'attends quand même à ce que nos élus fassent un peu de pédagogie, puis ne se servent pas de la confusion pour avoir des faux fuyants.
En effet. On termine le caucus Iacarini, qui normalement est de midi à 12h30. Vous comprendrez qu'on l'a extensionné aujourd'hui en raison de l'entrevue avec Jean-François Roberge. Vous êtes deux femmes, mesdames. Je veux vous entendre.
Oh, attends, là, on n'a pas dit nos pronoms là, avant de commencer l'émission.
Ouais, pourquoi tu supposes ça? Ouais. Pascal, je peux enlever mon E.
Ouais.
Bon, OK, attendez une minute. Là, je vais vous faire écouter les NPD pour commencer.
Anthony.
I'm sorry, just real quick, point of personal privilege. I understand there's very little time and for delegates to speak, but early on the mic,
OK, hard. Là, vous vous sentez mieux, vu qu'on est au congrès du NPD, puis que vous êtes considéré non-binaire, vous allez avoir le droit de parole avant les femmes et les hommes, c'est ce qui a été demandé.
J'ai pas dit que j'étais non-binaire. En tout cas,
c'est correct, vous vous sentez mieux, là? Ça va mieux?
Il choisit encore pour nous.
Oui.
Et toujours en train de nous imposer. C'est ça, c'est bien parfait. L'homme blanc cisgenre.
Oui. T'as tout compris?
Hétérosexuel.
Rempli de confiance.
Là, on fait des
qui
blagues.
Je pense qu'il pourrait être premier ministre.
Ce sont des blagues. Puis, je fais pas ces blagues-là pour dire que c'est pas important, l'inclusion.
Non.
C'est juste que j'ai regardé une partie du congrès du NPD en fin de semaine. Ils ont passé plus de temps à s'ostiner sur leurs pronoms. Puis, c'est qui devait parler en premier? Est-ce que c'est les autochtones handicapés, transgenres? Est-ce que c'est la femme issue de la diversité ethnique?
C'est là où
ils perdent
tellement de monde, là.
Bien, c'est parce que. Pour vrai, ils ont passé moins de temps à parler des Canadiens et de leurs priorités que d'être pognés à mettre des gens dans des petites cases, puis c'est qui parle en premier. C'est épouvantable. Et là, je vais revenir un peu en arrière. Il y a un chef qui a été élu en fin de semaine. Il y a un nouveau chef au NPD. Jagmeet Singh est parti. Et c'est Avi Lewis qui était le favori, qui est un candidat très à gauche. Il a gagné avec 56 %. La deuxième, c'est Mme McPherson. C'est une députée de l'Alberta. Elle est arrivée avec un résultat de 29 % deuxième. Elle est considérée comme étant plus pragmatique un peu. Donc là, on a un parti, on a un NPD qui était déjà très marginalisé depuis les dernières élections. Et là, je les regardais aller, je me disais... Mon Dieu, ils vont encore plus se marginaliser. Il y a moyen d'être inclusif puis le fun là, dans la vie, là, c'est bien correct. Là. Mais je les regardais, puis je me disais, mon Dieu, ils sont tellement loin des préoccupations des gens. Et pour vous donner une idée un peu du candidat qui a gagné, Avi Lewis, c'est un journaliste cinéaste de gauche qui est d'ailleurs le conjoint d'une autre journaliste autrice, Naomi Klein. Vous avez sûrement déjà vu des livres de Naomi Klein passer sur des tablettes de librairie, elle aussi altermondialiste, très à gauche. Ça risque de faire des vagues, ça, à l'interne, parce qu'il faut savoir que le NPD, c'est quand même un parti issu plus de l'Ouest canadien, très proche du milieu agricole, et il y a des partis NPD provinciaux. Nous, au Québec, on n'a pas ça. Mais par exemple, en Alberta, en Saskatchewan, etc. Et il y a déjà eu le NPD au pouvoir en Alberta. Ils ne remettent pas en question ils remettent pas en question l'industrie pétrolière. Ils sont plutôt pro-industrie pétrolière. Okay? Et lui, Avi Klein, on est ailleurs là, en termes d'industrie pétrolière. Donc, il y a déjà des gens du NPD qui vont décrocher. On voyait déjà la face de Mme McPherson qui est de l'Alberta. Puis, on sentait qu'il y avait énormément de division. Quand tu es à 6 % d'un sondage, là, puis qu'en plus, tu te redivises dans ton 6 %. Là. Je veux juste te dire qu'il ne reste plus grand-chose à la fin. Donc, vraiment, le NPD n'est pas sorti du bois.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Alexandre Boulris va aller dans un parti qui est en pleine ascension, Québec solidaire.
Bien, écoute, on trouve que QS est marginal et marginalisé des
Mais
fois.
NPD est encore pire.
Bien, c'est vraiment encore pire. Et c'est la conclusion de mon caucus aujourd'hui, c'est de vous dire que je pense pas que le NPD va remonter la pente bien vite avec leur attitude.
Mais avant de te laisser partir, je vous nomme chacune... ministre de la Sécurité publique.
Ah?
Vous dirigez la police. OK?
OK.
Vous faites quoi avec ça? Ça sera pas long, ça devrait partir.
merde, tu m'as entendu tout le long là-bas, sale pute. Puis quand je suis sorti, t'es venu.
On va reculer.
Ouais, tu m'as répondu quoi?
Où t'es vite teinté?
Sale pute de merde, tu m'as entendu tout le long là-bas, sale pute. Puis quand tu